Bonsoir, merci d'être venu. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer ce soir cette rencontre avec Céline Mina. Je crois que c'est votre 10e livre, mais je suis toujours un peu faillible sur les données chiffrées.
Non, non, c'est ça.
10e livre, donc vous êtes né à Rouen, vous avez fait des études de philosophie. Vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis en 2007 et 2008. On en parlera peut-être tout à l'heure. Deux livres vous ont valu une notoriété comme ça grandissante, le Dernier Monde en 2007, c'est ça, et Faillir être flingué, en 2014, dont on a beaucoup parlé, et qui a eu le prix du livre Inter. Mes informations sont bonnes. Ce soir, nous sommes ici ensemble pour parler du Grand Jeu, paru chez Rivage. Donc, le Grand Jeu, c'est un carnet de bord, à la fois mental, psychologique, et aussi très physique, très concret. D'une femme qui choisit de se retirer du monde. C'est la narratrice, se soustrait de la société, des relations humaines avec tout ce qu'elles peuvent contenir de manipulation, et choisit donc de tenter l'expérience de la solitude radicale, de vivre en autarcie, de construire ses règles de vie. Elle le fait de manière très organisée, très méthodique. Elle a conçu les plans et les fondations de son refuge.
Il n'y a pas de fondation.
Oui, c'est sans fondation en effet. C'est un abri, une sorte de fusée, on peut le décrire comme ça,
Mais sans la tête et
horizontale,
sans la queue.
sans la tête et sans la queue. Donc,
Fusée épluchée.
haute technologie mais sophistiquée. Sophistiquée. Tout ça en haute montagne. Elle cultive son potager, elle pêche, elle construit comme ça sa vie quotidienne dans la solitude la plus parfaite jusqu'au jour où elle aperçoit ce qu'elle croit être un paquet de laine, dans un premier temps, qui s'avère être peut-être un moine et finalement une nonne, une ermite, donc elle n'est plus seule, la narratrice. Et on passe d'une expérience de la solitude à une sorte de huis clos. Elle essaie de faire abstraction de cette autre présence, mais peut-on faire abstraction d'une autre présence humaine? On en parlera. Vous écrivez à un moment une phrase que j'ai notée, il n'y a pas de non-relation chez les humains. La suite, vous la découvrirez en lisant le livre, que je vous recommande vivement. Peut-être on peut commencer par le commencement. Moi, ce qui m'a surpris à la lecture, c'est vraiment le côté très très planifié des choses. Elle choisit cet isolement, c'est différent de ce qu'on décrit souvent quand comme ça quelqu'un décide de partir, de fuir. C'est souvent parce que voilà, il est en rupture, il veut ou alors c'est pour dans une quête d'ascèse. Là, j'ai trouvé que votre personnage a un rapport très apaisé et très réfléchi à sa démarche.
Oui, c'est très calculé, c'est très maîtrisé, effectivement. C'est pas partir sur un coup de tête, puisque l'habitacle lui-même est très pensé, très en amont. Le lieu est choisi très précisément. C'est des choses qui ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose de très pesé. C'est peut-être quand même une ascèse, mais une ascèse par la voie moyenne, quoi. C'est pas par l'extrême. On n'est pas, d'abord, on n'est pas en très haute altitude. L'habitacle, il est autour de 2000, donc c'est pas non plus c'est pas extrême. Et elle va pas grimper non plus des Himalayas. On n'est pas du tout dans les 7000 et tout ça. Donc il y a pas d'exploit. C'est pas une histoire de performance. C'est vraiment une histoire de. Et elle a prévu d'être fatiguée mais pas épuisée, d'être affamée mais pas, enfin d'avoir faim mais pas d'être affamée. C'est vraiment une démarche équilibrée, disons. Et très volontaire, elle est très déterminée, elle a tout calculé, elle a vu que ce potager pouvait le faire au bord du lac, à 1500 ça pousse encore, et voilà. Et elle s'est arrangée pour être en autarcie, pour pouvoir vivre en autarcie, c'est-à-dire ne pas du tout avoir à redescendre parce qu'il manque du pain ou du sel, ou du vin, ou du whisky, ou vin, du rhum. Et de pouvoir vivre comme ça, un temps indéfini. Elle sait pas, il y a pas non plus, il y a pas d'origine, il y a pas de futur, d'objectif non plus, disons dans le temps en tout cas. Et c'est vraiment une histoire du présent. C'est un livre présent tout le temps.
Tout le temps. D'ailleurs, on connaît pas les raisons. On sait pas pourquoi.
Non.
Alors pourquoi on ne sait pas pourquoi? Pourquoi vous avez choisi finalement de...
Parce que ça ne m'intéresse pas, pourquoi. Que la psychologie de la narratrice ne m'intéresse pas. La psychologie en général des personnages ne me passionne pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas dans le narrateur omniscient qu'on pourra trouver la psychologie du personnage, mais plutôt dans les faits, dans les actes même du personnage que va se dessiner une psychologie ou une tonalité ou de pensée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la situation, c'est la situation elle-même qui m'intéressait. Celle dans laquelle elle se met très consciemment, à savoir de se mettre là, dans ce milieu austère, indifférent, pas hostile, pas forcément hostile, mais où d'habitude, quand même, on n'habite pas, parce que c'est quand même un peu rude et très variable. Mais c'était de se mettre là en pensant que peut-être les éléments naturels, avec cette variabilité, cette puissance qu'ils ont à ces endroits-là, lui permettra de guider et son action morale, je dirais.
Oui, l'environnement naturel, on n'est pas dans un face-à-face. Là, il y a pas de... Vous dites qu'il est austère, mais c'est vrai qu'il n'est pas hostile. Il n'y a pas de confrontation.
Non, elle s'adapte. C'est pas un milieu facile, mais c'est un milieu où on peut vivre. C'est pas la banquise des pôles. Voilà, c'est pas des milieux extrêmes, mais c'est pas des milieux exploitables non plus. Donc il y a là quelque chose où elle se met un peu en contact avec une certaine sauvagerie, mais qui n'est pas prédatrice. Hein. Il y a pas d'ours, il y a pas de loup. Il n'y a pas de prédateur réel pour l'homme. Mais néanmoins, les animaux qui l'entourent ne sont pas domestiques, il n'y en a aucun. Ils sont tous sauvages, comme le carabe ou l'isard.
Et la marmotte.
Ouais, et la marmotte. Voilà. C'est un peu... C'est une sauvagerie qui n'est pas non plus... qui est naturelle, quoi. Elle n'est pas... C'est pas... On n'est pas que... Tout de suite, on n'est pas dans la prédation.
Et souvent, quand des écrivains parlent d'une expérience comme ça de retraite, c'est connoté, on parle de fuite, comme si finalement on voulait échapper à quelque chose. Là, ce n'est pas ça. Là, il y a presque une émancipation dans le fait de se...
Oui, mais je pense qu'il y a un mouvement paradoxal de dégagement de la société, de la relation humaine, sociale, normale, je dirais. Et en même temps, il y a un engagement, ce dégagement, c'est vraiment une sorte de pas de recul ou de pas de côté pour scruter le fondement d'une relation humaine et le questionner, en fait. C'est pas une fuite. C'est vraiment un creusement, mais à distance. C'est froid.
Quelles ont été vos influences? Parce qu'on pense, c'est vrai que dans les papiers qui sont consacrés au livre, il est souvent question de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe ou de Walden, d'Henri David Thoreau.
Walden, oui, d'accord, c'est une ancienne Robinson aussi. Alors là, c'est encore plus ancienne lecture. Mais bon, pour moi, Robinson, c'est pas tellement pertinent parce qu'il fait naufrage, il veut rien de tout ça, lui, le pauvre type. Et il est sur une île, il est entouré de mer, donc il peut pas du tout, il a pas de radeau, enfin, il a pas de bateau, donc il peut pas la parcourir. Là, c'est l'inverse. La montagne et l'île, ça peut être assez proche, mais en tout cas, elle parcourt son territoire. C'est d'ailleurs une de ses activités principales. Et il n'y a pas d'enfermement, c'est assez ouvert, justement. Elle n'est pas coincée dans son tube de vie, elle n'est pas coincée du tout. Bon, Walden, après, oui, ça a été une lecture ancienne, importante, bien sûr. Mais il y a aussi des trucs comme Camon au chômeil, les notes de la cabane de moine, par exemple. Ces espèces de ces ermitages beaucoup plus les ermitages chinois, japonais. Il y a deux grandes traditions de l'ermitage quand même dans le désert aussi, et tout ça. Donc c'est pas une terre, enfin c'est pas, même littérairement c'est pas un terrain incognita, mais ce serait plus vers ces choses là que vers Robinson qui...
Et la façon dont vous abordez aussi la votre sujet, si j'ose dire, c'est en tout cas la façon dont vous écrivez, tout simplement, c'est très concrète.
Oui.
Ça passe beaucoup par les choses. Alors, vous slalomez aussi entre le concret puis des questions non plus peut-être métaphysiques. Mais pourquoi cette place du concret, des sensations, des objets, des animaux, des...
Bah, c'est un peu la description là aussi, elle fait action ou elle est action, comme la montagne quoi. La montagne agit le personnage et la description construit le paysage. Il construit le paysage de pensée aussi parce que c'est quelque chose qui est assez mêlé. Et c'est pas les passages narratifs ou descriptifs sont c'est pas le même registre que les passages de questions, mais c'est un peu des façons différentes de répondre à la même situation. Et peut-être pas si différentes que ça.
Pourquoi pas si différente?
Parce que la pensée est dans le corps et que le corps en mouvement produit de la pensée et que tout ça est très emmêlé et que cette construction d'espace est vraiment une construction pour moi d'espace, alors littéraire bien sûr, mais pour le personnage d'espace vital, c'est-à-dire physique, respirable et psychique, respirable aussi.
Vous parlez du corps, vous disiez qu'elle parcourt son territoire. C'est vrai que la marche est très présente dans cette expérience et dans ce livre. Vous pratiquez vous-même? Comment vous
Oui,
êtes...
je marche en montagne, mais c'est pas. Voilà, oui, je marche en montagne. Bon, effectivement, il y a des sensations et des lumières et des présences rocheuses qu'il faut sentir pour pouvoir les transcrire. Mais voilà, mais c'est pas. C'est ça, c'est le travail littéraire après de pouvoir faire passer ça dans. Justement, dans cet espace tissé de réalité, d'imaginaire, d'expérience, de fantasmes, de questions, et voilà.
Et sur la marche aussi, il y a eu des influences qu'on peut s'exercer. Je pensais à Rousseau. Il me semble que ça a été une
Ah
influence
oui, alors
pour...
ça, c'était une vieille influence. Effectivement, mon premier livre était déjà un livre de. Enfin, était un livre de marche beaucoup plus. Non, pas vraiment traditionnel, non. Je peux pas dire ça. Non. Mais c'était dans les Alpes et ça change tout. Non, non, mais effectivement, c'était un livre de marche aussi. Et il y avait des. Ce qui m'intéressait dans ce bouquin-là, c'était aussi de faire passer, mais comme dans celui-ci, peut-être comme dans tous, c'est de montrer la circulation entre le personnage qui traverse le monde et le monde qu'il traverse, quoi. Et que tout ça était très poreux et produisait justement cet espace poétique complètement mélangé.
Et le quand vous décrivez cette forme, au début qu'on n'identifie pas trop, qu'elle assimile à un paquet de laine qui progressivement devient une forme humaine, est-ce que là aussi, comment cette chose, vous l'avez vue de...
Mais ça, ce personnage-là, enfin en tout cas pas ce personnage, parce que c'est toujours des croisements, des croisements, les personnages, oui. Mais cette façon d'apparaître, elle vient assez clairement d'un spectacle de Buteau que j'avais vu dans les années 80, je crois, au Théâtre de la Bastille, où il y avait Carlotta Ikeda sur scène.
La
Ouais.
morte à Bordeaux.
Ouais. Et elle était sur scène quand le public entrait et on la voyait pas du tout. On pensait qu'il y avait un tas de cailloux par terre, quoi. Et puis une fois qu'on était installé, on voyait le tas de cailloux bouger. Et c'était très inquiétant parce qu'on savait même pas si c'était mécanique ou vivant ou tout ça. Et se dégageait une forme, la forme d'un vieillard. Mais on n'était même pas sûr. Et puis ce vieillard, c'est devenu une femme, une vieille femme, une jeune femme, et ça retournait au minéral, et ça retournait à l'animal. Ça prenait des formes. On les voyait. Hein. C'était pas. On les voyait. Et ça se métamorphosait tout le temps. Et elle était. Enfin, la reconnaissance des formes jouait à fond. Donc on reconnaissait, on projetait, et tout bougeait. Tout était défait. En même temps que fait. Bon, ça, c'est la danse, avec des peu de mouvements en plus. Hein. C'était vachement fort. Donc, certainement que cette apparition d'abord de Stadlen et puis paf, d'un bras qui surgit et dont elle ne déduit pas tout de suite que, bon, il y a peut-être un corps humain ou tout, mais elle préfère pas trop savoir. Et puis, ça vient sûrement de là beaucoup.
C'était il y a combien de temps ce spectacle?
Oui, bah, il y avait 20, 25, 30 ans, je ne sais
Donc
pas.
c'est une image
Ah, bah,
comme
des fois,
ça qui...
c'est long. Hein,
Voilà, l'image, elle reste et finalement, elle revient comme ça.
Elle revient, je pense qu'elle reste pas. Bien, le souvenir et l'imaginaire, c'est quand même assez lié. Ouais, mais on ne sait pas comment l'art des autres fait son chemin ou la littérature des autres fait son chemin dans une constitution, dans une création, mais et des fois c'est très long.
Et vous parlez aussi dans ce livre d'inadaptation. Il y a une phrase, vous dites, nous sommes profondément inadaptés au monde dans lequel nous vivons. Ce monde n'est pas fait pour nous. Qu'est-ce qui
C'est
vous
pas la
fait dire
même
ça?
chose, hein?
Oui, c'est pas la même chose. Mais alors, ce monde
Ouais.
n'est pas fait pour nous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Bah, qu'il n'a pas été inventé pour nous, ça c'est sûr.
Vous pensez qu'on est dans une adaptation permanente, en fait, même inconsciente?
Oui, c'est clairement, on est dans une adaptation permanente. On est un peu trop, ou on adapte un peu trop le monde à nous. Mais quand elle dit ça, c'est effectivement un soulagement parce que ça veut dire l'humain n'a pas une place centrale dans le monde, et il ne l'a pas créé, parce que ce monde n'est pas fait pour nous. Enfin, l'inverse, ça voudrait dire qu'il a été créé pour nous, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que il est aussi créé pour les arbres, pour les plantes, pour tout ce qui de façon concurrentielle, mais équilibré, enfin qui finit toujours par s'équilibrer, pousse ou vit. Donc elle se sent très soulagée de penser que ce monde n'est pas fait pour nous, parce que d'une certaine façon aussi, on n'est pas responsable de cette existence-là. Enfin, il y a beaucoup de sens à cette, de sens possible à cette,
Oui.
à ce soulagement aussi.
Et le fait de raconter comme ça une expérience de la solitude, ça veut dire que quand vous écrivez, il n'y aura pas de dialogue. Ça, c'est pour vous, en termes d'écriture, c'est un problème ou pas du tout
Non, bon, de toute façon, il pourrait y avoir des dialogues, hein.
Vous voulez dire un monologue ou
Non, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Dernier Monde, où tout le monde est mort, sauf un type, et ils n'arrêtent pas de parler. Ça parle, parce qu'il s'explose. Enfin, je veux dire, il s'explose un peu, puis il se divise en plusieurs personnages, et il se parle beaucoup. Donc, c'est pas, non, c'est pas un problème. Et puis, en plus, je pense pas à les choses comme ça, effectivement. Non, mais il ne pouvait pas y avoir de dialogue dans ce livre. Pas verbal, en fait.
Et dans vos livres, vous allez sur des registres très différents. C'est un choix ou pas du tout? C'est vraiment un processus finalement sur lequel vous réfléchissez peu, qui vient comme il vient et,
Ça se fait comme ça, oui. Mais ça se fait comme ça. C'est un peu mystérieux, mais bon, pour moi, chaque livre a sa couleur, sa tonalité de langue aussi, son rythme. Et ça, c'est dicté à la fois par. Enfin, c'est pas dicté, c'est formé par l'époque, le sujet, s'il y a un sujet, ce qu'il y a à dire, la vitesse de l'action aussi, ça forme, ça décide beaucoup de la langue.
et le rythme et
Et du rythme, et tout ça, c'est très lié, mais ça monte ensemble, c'est pas.
Et comment vous procédez en fait? Vous écrivez vous avez des rituels quand vous écrivez ou pas du tout?
Non,
Vous êtes
j'ai pas.
organisé? Est-ce que vous êtes comme votre narratrice qui organise beaucoup les choses ou pas du tout
Non, je suis beaucoup moins organisée.
ou...
Mais je suis concentrée. Mais non, j'ai pas de rituel. On me demande souvent, je me demande si je vais pas en inventer parce que. Mais non, c'est des rituels, non. Enfin, non, alors j'écris sur un cahier, enfin plusieurs, sur la page de droite, pas sur la page de gauche, parce que sur la page de gauche, je rajoute des trucs, des commentaires ou des flèches, où
Mais
j'ai
vous
besoin de
écrivez
place, quoi,
dans un
mais.
temps concentré ou
Oui, plutôt, oui. Oui, plutôt un temps concentré, plutôt en linéaire, pour pas trop perdre le ton, le fil. Parce que en plus, s'arrêter 4 jours, c'est très. Après, il faut tout remettre en. C'est pas juste la page d'avant, c'est tout le livre qu'il faut remettre en activité ou en activation, même s'il n'est pas fini, bien sûr. Mm-hmm. Surtout s'il n'est pas fini. Enfin, s'il était fini, c'est bon. Mais, ouais, mais c'est à chaque fois une espèce, c'est tout le machin qu'il faut resoulever. Donc, il vaut mieux pas s'arrêter, en fait. Pas trop.
Vous avez fait des études de philosophie. Quelle influence la philosophie a-t-elle dans votre travail, de votre activité d'écrivain?
En fait, j'ai fait. J'étais très mauvaise philosophe parce que les textes de philo, je les lis comme des fictions. Et donc, je ne peux pas être philosophe parce que je ne peux pas créer de concept, moi. Je peux essayer de créer des matières ou des situations ou des ambiances ou des états de langue, mais pas des concepts. Et en plus, bon, à chaque fois que je lis de la philo, je vois les concepts. Donc, c'est déjà tout faux. Mais ça permet vraiment de. Il y a un physicien qui prenait du LSD qui voyait les atomes. Enfin, moi, je ne prends pas de LSD, mais je vois les concepts. Mais c'est ce qui est une erreur. Enfin, c'est une faute philosophique, presque. Mais bien sûr, et justement, de cette incompréhension ou de cette spatialisation constante de la pensée, c'est un ferment pour moi. Et les problématiques sont des moteurs, quand même. Il n'y a pas de narration s'il n'y a pas de tension. C'est là que la philosophie joue, enfin, oui, joue, parce que c'est aussi un écart, un jeu.
Et alors, comment vous avez bifurqué en fait de la philosophie à la littérature, du concept à la fiction?
Je sais pas. J'ai jamais bifurqué, en fait, parce que
Oui, les deux
c'était
sont.
j'avais tout faux dès le départ, quoi.
Donc vous êtes revenu.
Mais je suis pas revenue parce que j'ai. Enfin, non, mais je me suis lancée, quoi.
Et le déclic, le fait d'écrire, c'est apparu quand dans votre vie?
Alors, je pense que vers 10-12 ans, j'ai eu très envie de faire ça. Je voulais. Ouais. Très envie de devenir homme de lettres, d'ailleurs, parce que je savais pas qu'il y avait des femmes de lettres. Et voilà. Puis après, j'ai mis un certain temps à passer à l'acte.
L'envie, vous l'aviez, mais
L'envie, je
écrire?
l'avais parce que je trouvais ça magnifique de faire surgir des mondes avec que des mots imprimés dans un format très réduit, ouvrir ça et que ça contienne un monde, une vie, plusieurs. Je trouve ça magique, je trouve toujours d'ailleurs. Et c'est toujours la littérature pour moi, est toujours de l'ordre d'attraper des vies dérobées, enfin de voler des vies, de voler des expériences et des aventures ou des pensées, enfin d'aller plus loin que là où on est et autrement.
Et alors, je disais tout à l'heure, en évoquant votre parcours, que vous avez passé 2 ans ou 1 an, je ne sais pas combien c'est, à la Villa Médicis.
Pour les écrivains, c'est un an.
C'est 1 an. Alors, c'est vrai que moi, c'est un lieu que je connais vaguement en tant que touriste. Je me suis toujours demandé comment, si c'était un lieu propice à la création, en fait, parce que ça paraît tellement imposant et détaché
Ouais, ça me gêne pas, moi.
Ouais.
Les grands volumes, les palais, tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Je me sens assez vite à l'aise. C'est quand je reviens dans mon appartement à Paris qui fait 30 mètres carrés, là, Ouais, c'est bizarre.
Donc c'est un lieu où vous vous êtes senti à l'aise pour écrire, pour
Oui, bon, faut l'apprivoiser aussi. C'est pas le lieu qui est gênant, c'est les autres. C'est.
Vous voudriez l'avoir pour vous toute seule.
Oui, bah oui, ça c'est un problème. Mais c'est un lieu où j'ai écrit, puisque j'ai écrit Olympia là-bas. Donc, oui, on peut le faire.
Et toujours pour rester sur votre parcours, là, donc vous avez eu le prix du livre Inter en 2014. Là, vous êtes sur il me semble, sélectionné pour le prix Médicis. C'est ma deuxième liste, je crois. Ça représente quoi pour vous, les prix littéraires?
Bah, ça représente une durée de vie plus longue pour le livre. Et puis plus d'argent, tout ça. Enfin, des choses intéressantes, quoi.
Et le fait d'être sollicité pour parler de votre livre comme ça très régulièrement, c'est important pour vous aussi. Ça participe aussi de ce qui peut donner plus de durée de vie au livre et plus
Oui, ça sûrement,
de partage
effectivement.
peut-être.
De durée de vie, de réaction, oui. Et puis ça force à. Ce qui n'est pas toujours agréable d'ailleurs, mais ça force à penser, à digérer le livre très vite en fait. Et ça décante, il y a toujours un moment il y a un moment tampon où ça décante,
Entre l'écriture et la
entre,
publication.
ouais, même entre la fabrication et la publication réelle. Et après, on est comme incité à avoir une analyse plus fine. Et là, les choses bougent, en fait. Et ça, c'est assez marrant d'observer ça. Comment le livre bouge en lui-même et pour nous.
Alors, il y a deux mots qui reviennent sans cesse. On va revenir au livre. C'est la promesse et la menace. Pourquoi finalement les relations humaines, d'après vous, sont imprégnées de ces deux modalités, on va dire?
Pas d'après moi, déjà, c'est quand même la narratrice qui parle
Oui,
là.
pardon, excusez-moi. Oui.
Et c'est ça, je pense que c'est un constat. Et que c'est et qu'elle justement, sa question, c'est est-ce que toute relation humaine est toujours prise entre promesses et menaces? Est-ce qu'il s'agit toujours de destruction, de séduction, de domination? Ou est-ce qu'il peut y avoir des occasions pour la relation humaine de sortir de cette tension-là et de ce jeu. Je pense que c'est une des grandes questions du livre et qui va d'ailleurs se développer autrement et peut-être aller plus loin dans la recherche grâce à enfin avec la rencontre de la nonne là, qui est inassignable, qui ne réagit à rien normalement, qui est quelqu'un qui fait sauter toutes les représentations prévues, préfaites. Qu'il est défait, en faisant pas grand-chose d'ailleurs.
Dans
Mais
une
bon,
économie
de
d'expression,
moyens.
ouais. Pardon de revenir à l'auteur, mais vous-même, vous avez tenté ces expériences de solitude radicale
Ben, radical, non, parce que en fait, ça
sur
n'existe
plusieurs
pas, la
semaines, oui.
solitude radicale. Mais non. Mais oui, j'ai vécu en montagne, dans des cabanes d'estive un peu haut comme ça, dans des campements un peu haut aussi, et tout ça. Mais c'est pas. Mais en fait, en montagne, il y a un tissu social qui est beaucoup plus lâche qu'en ville, mais qui est très efficace. Les gens se regardent beaucoup, même de loin, même que tous les 3 jours. Mais si on vous a pas vu pendant longtemps, on va voir quand même, parce que c'est des milieux un peu plus dangereux.
Je le disais tout à l'heure, ce changement de focal, on passe de choses très matérielles et très concrètes à des choses voilà, qui sont plus abstraites. Mais tout ça se fait de manière très fluide. En effet, dans un espace qui n'est pas identifié et structuré.
Mais il est mouvant aussi.
Voilà, c'est ça.
Mais j'ai enfin, il y a un peu deux façons de lire parce que j'ai eu des gens qui me disaient, mais moi j'ai tout vu. Et je peux dresser je peux lever une carte. C'était assez fort. Enfin, ah bon. Mais c'était bon, quelqu'un qui pratiquait la montagne. Mais je sais pas si c'est à cause de ça. Hein. C'est juste, lui voyait tout. Après, je pense que. Les histoires de parcours et de relier les choses, les lieux entre eux, c'est pas forcément. Après, il y a deux, trois lieux, quoi. Il y a le lac, il y a l'abri, il y a le machin, l'écaille sur le rocher, et puis, quoi, et puis le 2871. Puis l'autre versant, là, où il y a la cabane de la nonne. Après, ça se balade. Ça se balade et c'est pas tracé. Toujours pas. Comme dans Faillir être flingué, c'était pas tracé.
Peut-être là, vous en êtes où? Vous êtes déjà en train de réfléchir sur, ou peut-être même d'écrire, ou pas du tout là,
Pas
c'est...
du tout. Je suis lente, moi. Je vais comme en montagne, je vais doucement. J'essaye de respirer.
Merci d'être venu. Merci Céline Minard et bonne soirée à vous.
Merci.